La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, acteurs et témoins de l'histoire. Nous sommes dans les années 20, à New York, très exactement à Harlem, au nord de l'île de Manhattan. Louis Armstrong a rejoint l'orchestre de Fletcher Henderson et sa formation a un succès fou. Dans les clubs du quartier, on croise aussi Duke Ellington, Bessie Smith ou encore Josephine Baker, les jeunes artistes d'un nouveau mouvement culturel, le Harlem Renaissance. Harlem brille de mille feux et ce bouillonnement artistique et politique transforme ce quartier blanc en capitale de la culture noire. Les associations, les églises, les rédactions des magazines comme Negro World ou Crisis ont pignon sur rue à Harlem et dans leurs articles, ils défendent les droits des Noirs au nom de la démocratie américaine. Au sein de ce mouvement où se côtoient Langston Hughes, Claude McKay ou Webb Dubois, je vous propose de découvrir une figure exceptionnelle et singulière, celle de Paul Robeson, star aux États-Unis et aussi en Union soviétique. Pour la première fois en France, une exposition retrace le parcours de son engagement. C'est au musée du Quai Branly et c'est un événement car Paul Robeson est oublié en Europe alors qu'il figure au panthéon des acteurs de l'émancipation des Africains américains. Le chanteur et activiste Harry Belafonte inscrit d'ailleurs Paul Robeson dans l'histoire de cette lutte et il lui rend hommage au 44e congrès du NAACP, l'association nationale pour la promotion des gens de couleur.
They were my mentors.
Ils étaient mes mentors.
My inspiration.
Mon inspiration.
My moral compass.
Mes repères.
Through them, I understood America's greatness.
À travers eux, j'ai compris que l'Amérique était grande.
W.E.B. Du Bois.
Je parle de Webb Dubois.
Martin Luther King Jr.
Martin Luther King.
Eleanor Roosevelt.
Eleanor Roosevelt.
And others like Fannie Lou Hamer. Ella Baker.
Ou d'autres comme Fannie Lou Hamer, Ella Baker,
Bobby Kennedy,
Bobby Kennedy,
Condi Rice,
Condi Rice,
and perhaps most important of all for me, Paul Robeson.
Mais le plus important pour moi reste Paul Robeson.
He was the sparrow.
Il avait l'œil de l'épervier.
He was an artist.
Il était un artiste qui nous a fait comprendre cet appel unitaire quand il a dit
«
Les artistes sont les gardiens de la vérité. Nous sommes les voix contestataires de nos civilisations. Jamais dans l'histoire de l'Amérique noire, nous n'avons eu d'artistes aussi doués et respectables que ceux que nous célébrons aujourd'hui. »
Le chanteur Harry Belafonte célèbre l'engagement de l'acteur Paul Robeson. Tout au long de sa carrière, Paul Robeson a en effet tenté de rompre avec l'image stéréotypée du noir. Afin de mettre en avant l'Afrique et le monde ouvrier, c'est un homme de son temps, écrit Sarah Friou-Salgas, commissaire de l'exposition Paul Robeson au musée du Quai Branly à Paris, notre invitée. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Sarah Friou-Salgas, vous brisez le silence en quelque sorte avec cette exposition. Paul Robeson, un homme du tout monde, une expression d'Edouard Glissant. Mais au fond, pourquoi Paul Robeson est-il un homme du tout monde ?
Pourquoi Paul Robeson est un homme du tout monde ? Parce que je pense qu'il se différencie d'autres acteurs ou chanteurs militants africains-américains, car pour lui, l'engagement est une sorte d'engagement total. Donc en effet, il va d'abord s'intéresser à sa propre condition, celle d'un Africain-américain, mais il va très vite, mais c'est aussi une période, s'intéresser à la condition des hommes en général, et notamment du monde ouvrier ou des gens opprimés, que ce soit dans son engagement antifasciste ou auprès des différents mouvements ouvriers, et pas nécessairement africains-américains. On voit aussi des images en Australie où il soutient dans les années 50 des ouvriers australiens. Enfin voilà, c'est vraiment un spectre très très large de son engagement et qui fait de lui quelqu'un d'assez original et rare.
Alors, rare justement, comment expliquez-vous son absence dans l'histoire américaine, non pas vue par les Américains, mais vue par les Européens?
Parce que moi, il me semble que l'histoire de l'engagement des Africains-Américains, on a un certain nombre d'icônes, hein, des icônes qui sont légitimes, enfin, qui sont évidemment tout à fait extraordinaires, comme Martin Luther King ou Angela Davis ou Malcolm X. Et hélas, ces icônes balayent un peu d'autres personnalités. Alors, Robson pourrait faire partie de ces icônes, mais ça balaye aussi tous les autres types de militants. Hein. Mais je ne sais pas pourquoi, il y a eu une sorte d'oubli, parce que c'est justement, je pense que son engagement est tellement vaste qu'il est un peu difficile de le rentrer dans une case. Et pour quelqu'un qui s'intéresse aux engagements, aux luttes pour les droits civiques ou aux luttes un peu radicales, lui, il est toujours un peu au milieu de tout. À mon avis, c'est ça.
Mais j'aimerais d'abord, Sarah Friou-Salgas, en quelques mots, que l'on revienne sur la biographie de Paul Robson. D'où vient-il? De quel milieu est-il issu? Bon, lui qui est d'abord un fils d'esclave.
Son père est un ancien esclave évadé d'une plantation, puis il va très tôt perdre sa mère. Et très vite, son père, je pense, va faire en sorte qu'il fasse des études. Il va intégrer le lycée, le collège Rogers. Il va être un grand sportif au sein de ce collège. Et ensuite, il va commencer des études de droit à Columbia. Donc, est-ce que c'est peut-être la petite bourgeoisie, mais pas vraiment. Voilà, on ne sait pas trop. C'est un peu un milieu assez banal, pas le milieu pauvre. Mais il va abandonner ses études de droit parce qu'il a voulu suivre une carrière de chanteur puis d'acteur.
Et comment devient-il célèbre, Sarah Friou-Salgas?
Il va participer à plusieurs spectacles à New York dans les années 20. Les spectacles auxquels il va participer vont petit à petit être un petit peu des symboles de ce mouvement de la Harlem Renaissance. Hein, une des particularités de la Harlem Renaissance, c'est en effet, c'est de faire en sorte de rendre visibles des acteurs, des penseurs africains-américains. Et c'est une expérience commune avec des blancs de New York, hein, qui vont notamment des metteurs en scène, mais aussi des éditeurs. Et lui, il va un peu comme ça être révélé dans certains spectacles mis en scène par des metteurs en scène blancs. Et il va faire partie de cette mouvance de la Harlem Renaissance. Mais c'est surtout un concert, je crois, en 25. Un premier grand concert où il va un peu, tout le monde va être très très impressionné par sa voix, en 25 à Greenwich Village, dans un concert, dans une salle, je ne sais plus le nom de la salle.
Et puis sa carrière est lancée, il va y avoir des grosses productions hollywoodiennes, Emperor Jones en 1933, Showboat en 1936, un spectacle qui aborde la question des préjugés raciaux avec de bons sentiments et un rôle que Paul Robson a d'abord interprété au théâtre.
C'est ça, en fait, ces deux, que ce soit Emperor Jones et Showboat, ces deux pièces qui ont été jouées dans les années 20 à New York, hein, 25 et 27, je crois, je ne sais plus, et qui vont ensuite être des pièces, des sortes de comédies musicales à succès que Hollywood va reprendre, et avec les mêmes acteurs, enfin, donc, notamment Robson. Et ça va être vraiment des films qui vont être diffusés dans le monde entier. C'est pour ça que d'ailleurs, dans l'exposition, je présente des affiches en espagnol, en suédois. C'est vraiment la grande star hollywoodienne, la première grande star hollywoodienne africaine-américaine. Et c'est surtout des pièces, une pièce et des films qui vont être très populaires.
Et c'est entre autres, hein, ce triomphe de Showboat grâce à l'interprétation de Old Man River.
There's an old man called the Mississippi. That's the old man I don't like to be. What does he care if the world's got troubles? What does he care if the land ain't free?
He just keeps rolling, he keeps on rolling along. He don't plant taters, he don't plant cotton, and them that plants them is soon forgotten. But old man River, he just keeps rolling along.
Le triomphe de Paul Robeson. Nous sommes en 1936, il a 38 ans et il interprète Showboat. Il est une star hollywoodienne, comme on atteste les affiches des nombreuses productions dans lesquelles il incarne le rôle principal. Et vous montrez d'ailleurs une galerie d'affiches de ses spectacles au Quai Branly, Sarah Friou-Salgas. Que pensez-vous néanmoins des rôles qu'il a incarné? Est-ce qu'on peut dire qu'il arrive à échapper à la caricature du nègre selon la terminologie de l'époque? Je rappelle que nous sommes dans l'entre-deux-guerres.
Il essaye vraiment de s'émanciper de tout ça, mais malgré tout, je pense que ses rôles resteront un petit peu caricaturaux, mais moins que d'autres rôles de noir dans le cinéma de cette époque-là. Vraiment, il va essayer, mais bon, après, il ne peut pas non plus réussir. Encore aujourd'hui, c'est caricatural. Donc, dans les années 30, lui, il tente quelque chose. Mais malgré tout, peut-être le film dont il sera le plus fier, c'est le film où il joue le rôle d'un ouvrier, là, justement, dans The Proud Valley, qu'on a projeté au musée, là. Où là, il joue le rôle d'un ouvrier qui se bat avec des mineurs, justement, gallois. Là, je crois que c'est le film dont il était le plus fier.
Et dès les années 30, on apprend dans votre exposition que Paul Robeson a joué Othello à Londres et qu'il a, en quelque sorte, africanisé son personnage. Est-ce que là, déjà, il ancre sa dimension politique dans son œuvre ?
Oui, en effet, c'est vraiment une étape, je pense, importante sur justement la question de l'histoire de la place des Noirs dans les grands classiques, disons, du théâtre. Et donc en 1930, il joue Othello à Londres, et c'est important de préciser que c'est à Londres, hein, parce que c'est vraiment à Londres que de nombreux artistes africains-américains, que ce soit des acteurs ou des grands chanteurs de classiques, vont commencer leur carrière. Et ensuite, en 1943, à New York. Et là, ça va être aussi un grand succès. Très tôt, il va être interviewé sur ce rôle-là. Et il va vraiment avoir une vraie réflexion sur ce rôle, comme vous le disiez, où il veut africaniser Othello et où, pour lui, c'est aussi une question sur la question raciale, mais aussi, comme il le dit, une question de l'humanité, de la jalousie, etc.
Soft you! A word or two before you go. I have done the state some service, and they know it. No more offense. I pray you in your letters, when you shall these unlucky deeds relate.
Incroyable Paul Robeson, il est le premier Afro-Américain à jouer Othello aux États-Unis. Un Paul Robeson qui chante également du Jean-Sébastien Bach. Vous écoutez La Marche du Monde sur RFI, consacrée à une star afro-américaine très engagée pour les droits des Noirs, mais aussi pour la classe ouvrière et la défense de la démocratie. Il s'appelle Paul Robeson. Il chante dans les théâtres à New York et à Londres et il choisit de soutenir le combat des républicains espagnols. C'est ce qu'il explique au micro de la radio française, un entretien rare, probablement enregistré en 1935.
Paul Robeson, le célèbre acteur noir, une des plus belles bases du monde, le créateur de Showboat et l'interprète de tant de grands films qui restent dans notre souvenir, est à Paris, venant d'Espagne. Et nous avons la rare bonne fortune et le grand honneur d'avoir actuellement M. Paul Robeson devant notre micro. Ainsi que nous vous l'avons dit, M. Paul Robeson arrive d'Espagne. Et plutôt que de vous dire nous-mêmes pourquoi il est allé en Espagne, nous allons lui poser la question. Nous vous traduirons ensuite la réponse de M. Paul Robson, qui entend le français mais qui ne le parle pas. Voulez-vous nous dire, M. Robson, pourquoi vous êtes allé en Espagne?
The struggle of Republican Spain for democracy, liberty and human dignity.
La lutte de l'Espagne républicaine pour la démocratie, la liberté et la dignité humaine
is the struggle of all who stand against reaction and fascism.
Est la lutte de quiconque est contre la réaction et le fascisme.
The artist cannot remain outside or above this struggle, but must actively do his part.
L'artiste ne saurait demeurer en dehors ou au-dessus de cette lutte. Il doit y prendre part.
For some time, I've been appearing at meetings and giving recitals in aid of Spain.
Depuis quelque temps, j'ai pris part à des meetings nombreux et donné des récitals pour venir en aide à l'Espagne.
I wanted to see and meet the heroic people of this country.
J'ai voulu voir et voir se battre ce peuple héroïque. J'ai voulu assister de près à la lutte pour me sentir plus près de ce peuple pour le mieux comprendre.
Also, I thought my words and songs would have more weight after a visit to the country.
Et puis aussi, j'ai pensé que ce que je pourrais dire et que mes chants auraient plus de portée après une visite à l'Espagne et que l'aide que je pourrais ainsi lui apporter serait plus effective. Enfin, j'ai voulu apporter au peuple espagnol l'expression de mon amitié et de l'active sympathie de mes compatriotes et des groupes démocratiques d'Angleterre et d'Amérique avec lesquels j'ai travaillé pour venir en aide à l'Espagne. Et quelles sont, M. Paul Robson, les impressions que vous rapportez d'Espagne?
I was impressed by the courage, the heroism of the people, their quiet determination never to be defeated.
Monsieur Paul Robson nous dit que c'est le courage, l'héroïsme des populations espagnoles qui l'ont surtout impressionné, ainsi que leur tranquille détermination de ne jamais se laisser battre.
By the kindness and generosity and very warm hospitality, I was there during heavy bombardment.
Il a remarqué en nous la gentillesse et la générosité, la très chaude hospitalité des populations.
I've brought back the conviction that the democratic countries must stop these savage attacks.
Et ayant assisté à des bombardements particulièrement sévères, il a aussi la conviction que les pays à gouvernement démocratique devraient faire en sorte que cessent ces attaques sauvages. Et quelle est, M. Robson, votre opinion sur l'issue de la lutte?
I came out tremendously optimistic.
M. Robson est revenu d'Espagne furieusement optimiste.
The Spanish people are doing and will do all in their power.
Le peuple espagnol, dit-il, fait tout ce qu'il est en son pouvoir et il fera tout pour vaincre.
However, we outsiders cannot permit them to bear the whole burden in this struggle, which is also our struggle.
Quant à nous qui sommes en dehors de la lutte, nous n'avons pas le droit de laisser les Espagnols porter tout le fardeau de cette lutte qui est aussi notre lutte.
La voix de Paul Robson dans La Marche du Monde, c'est la seule archive radiophonique en français que nous ayons retrouvée à ce jour et je voulais vous la proposer. Sarah Friot-Salgas, vous êtes la commissaire de l'expo Paul Robson au musée du Quai Branly.
Bah, je vous remercie parce que j'avoue que je n'avais pas, eu l'occasion de l'entendre et c'est émouvant de l'entendre et c'est surtout...
Qu'est-ce que vous entendez justement?
Ce que j'entends, c'est peut-être pas ce que j'entends, mais c'est le fait, c'est toujours cette idée que finalement, c'est des voix qui ont été entendues à l'époque. Si vous voulez essayer de se dire que voilà, il y a eu une émission de radio où on a décidé d'interviewer un militant qui revenait, un militant africain-américain qui revenait d'Espagne, et c'était, alors je sais pas de, sur quelle radio c'était diffusé, mais ça veut dire que des Français de l'époque ont entendu la voix de cet homme,
c'est
etc.
La radio française, hein, il n'y en a qu'une. Hein.
Donc voilà, donc c'est ça qui est aussi intéressant quand on fait un peu, moi c'est ce qui m'intéresse, hein, c'est de savoir est-ce que ces gens dont on a l'impression qu'on ne les a jamais entendus, ont vraiment jamais été entendus, et là de se dire qu'ils ont été entendus, pas parce que je fais une exposition aujourd'hui ou parce qu'il y a eu des travaux dessus, mais parce qu'à l'époque, Robson a été voilà, diffusé, je ne sais pas, dans le Lot, en Bretagne, je ne sais pas si...
Et voilà. Pas seulement parce que c'est une star populaire, mais parce qu'il devient une personnalité,
exactement.
Et qu'il porte un message.
Exactement, et que voilà, et c'est ce qu'on veut, on prend le message antifasciste de l'époque, quoi.
Alors ce soutien républicain espagnol contre la dictature du général Franco sera indéfectible, et vous proposez d'ailleurs une citation de Robson dans votre expo, il est à Londres, nous sommes le 24 juin 1937, et il fait cette déclaration au cours d'un concert de soutien aux réfugiés espagnols républicains. L'artiste doit choisir de se battre pour la liberté ou l'esclavage. J'ai fait mon choix, et l'ajoute, je n'avais pas d'alternative. Pourquoi avoir choisi cette citation ?
Parce que je trouvais que c'était... Alors ça fait peut-être citation un petit peu accrocheuse comme ça, mais je pense que c'est voilà, la citation de n'importe quel artiste militant, et que c'est intéressant que cette phrase-là ait été dite par un Africain-Américain pour soutenir les républicains espagnols. Voilà, c'est pour montrer les complexités des combats. C'est le cas aujourd'hui, c'était le cas déjà à l'époque. Enfin, Robson est peut-être un petit peu original, mais finalement pas tant que ça, parce qu'il y a d'autres intellectuels africains-américains comme lui qui ont eu ces combats un peu internationalistes, hein, c'est ce qu'on peut dire, comme Langston Hughes, Claude McKay, Du Bois, que vous citiez, etc.
Avec des choix très forts et des propos très forts et des choix musicaux très forts.
Far and wide as the eye can wander, heath and bog are everywhere. Not a bird sings out to cheer us. Oaks are standing gaunt and bare. We are the peat bog soldiers. We're marching with our spades to the bog.
Nous écoutons le chant des marais, le chant des prisonniers de camps de concentration de l'Allemagne hitlérienne, interprété par Paul Robson devant les républicains espagnols. Un chant créé à l'origine en 1933, Sarah Frius Algas, que Paul Robson s'approprie extrêmement vite. Je trouve ça extrêmement impressionnant. Comment l'expliquez-vous ?
Ça montre que très très vite, les chants contestataires se diffusent assez rapidement. Et que, de toute façon, dans les années 30, c'est la montée du nazisme et du fascisme. Et les militants, voilà, sont les grands engagements de l'époque, c'est ça. Donc très vite, les militants anti-nazis et anti-fascistes vont évidemment être en lien. Et voilà, et tout ce qui s'organise va être une organisation commune. Et c'est pour ça que ce chant des prisonniers de guerre... dans l'Allemagne nazie vont être repris par les militants antifascistes.
Et comment, du coup, cet engagement très fort de Paul Robson est perçu dans cette Amérique des années 30 qui se remet tant bien que mal de la crise de 29 sous le mandat du président Roosevelt ?
Alors, ce qu'il faut voir, c'est que dans les années 30, en fait, Robson est surtout à Londres, en fait, et je pense que aux États-Unis, il est surtout considéré encore plutôt comme une grande star, comme un artiste, et notamment, ça se voit en 39, hein, où il va chanter un chant Ballad for Americans, où il est vraiment le chanteur, le grand chanteur populaire noir. Et ses engagements, en fait, posent pas trop de problèmes, notamment l'engagement antifasciste pour les Américains, ça se passe en Europe, quoi. Donc ces choses sont pas trop associées à l'Amérique. C'est après qu'il va avoir des problèmes, en fait.
Écoutez RFI, la marche du monde.
Au son de Duke Ellington et son groupe The Washingtonians, révélé à Harlem dans l'entre-deux-guerres, nous revenons sur les multiples engagements de Paul Robson, une figure oubliée de la lutte des Africains-Américains aux États-Unis, redécouverte aujourd'hui en Europe grâce à l'exposition du Quai Branly Paul Robson, un homme du tout monde, proposée par Sarah Frius Algas. Alors d'une exposition à l'autre, je me suis demandé quel lien il pouvait exister entre Paul Robson et Sismographie des luttes, où sont mises en perspective plusieurs centaines de revues militantes non européennes, de l'île d'Haïti à Harlem, en passant par l'Asie ou encore l'Amérique latine. Et pour commencer, j'ai d'abord demandé à Zaya Rahmani, commissaire de l'expo Sismographie des luttes, comment elle trouve Paul Robson.
Paul Robeson, il a un physique, hein. Il a un corps très présent, il est très grand, il est très élégant, il a une sorte de démarche très ferme, comme ça. Et c'est étonnant quand on le voit, par exemple, dans des documentaires entouré de mineurs, il est toujours à l'avant, il a une sorte de posture excessivement émancipée et libre. C'est ça qu'il faut entendre, mais dans le même temps, je pense que la manière dont il va aussi vouloir comprendre les origines des Africains-Américains, il va se saisir de corpus bibliographiques. Il a autour de lui un grand nombre d'intellectuels qui ont travaillé à la connaissance de cette histoire, et pour la plupart, ces intellectuels sont des écrivains africains-américains. Mais aussi, au fur et à mesure du temps, il va croiser d'autres figures, hein, qui, elles, sont issues de territoires comme Trinidad et Tobago ou les Antilles françaises. Ce dont on se rend compte, c'est qu'un certain nombre de groupes sociaux n'ont pas cessé de lutter pour leur émancipation, et que ces groupes sociaux se sont connectés à des temps donnés à l'échelle internationale. Robeson est quelqu'un qui fréquente sur un certain nombre de décennies un grand nombre d'intellectuels actifs sur le territoire européen, mais dans d'autres territoires, pour d'une certaine manière mener à bien un activisme politique essentiel et qui va nous nourrir, nous, évidemment, européens, parce que rien de ce qui s'appelle l'émancipation n'est étranger à ceux à qui on doit, en fait, ces luttes, hein. C'est-à-dire que ce qui est aussi singulier avec une figure comme Paul Robeson, c'est qu'il arrive, malgré tout, à tenter de sortir du modèle dans lequel sa condition d'Africain-Américain tente de l'assigner constamment, c'est-à-dire un homme qui est voué toute sa vie à devoir parler de sa condition pour lutter pour pouvoir s'en émanciper. Il arrive en même temps à faire une œuvre. C'est ça qui est très puissant, et qui est la tentative d'un grand nombre de ces intellectuels qui sont pris au piège de cette assignation. On n'a pas vocation toute sa vie à vouloir défendre les siens, mais leurs conditions les obligeaient. Et en même temps, ils avaient vocation à être des écrivains, à être des artistes, à être des musiciens. Et ce qu'on voit à travers Sismographie des luttes, c'est le nombre d'intellectuels, artistes, qui ont dû mener de front, évidemment, ce type de combat, et tenter de faire survivre une part d'eux-mêmes, qui serait la possibilité de perpétuer un modèle de création.
Zahia Rahmani, Sismographie des luttes, témoigner de la dynamique intellectuelle, artistique et politique au cœur des empires coloniaux. Et pourtant, dans cette Sismographie des luttes, on retrouve bien, par exemple, le Negro World, qui est une revue née en 1918 jusqu'en 1933, que peut-être Paul Robeson a pu lire aux États-Unis. On n'est pas dans un empire colonial.
Oui, mais comme dirait Achille Mbembe, la matrice, c'est la colonie. Et il ne faut pas oublier que les Noirs, on les a fait venir pour cela, pour travailler dans la colonie. C'est-à-dire qu'on les a fait venir pour quelque chose qui s'appelle être esclavagisé, travailler dans un territoire donné. Et donc, on est de toute façon dans ce qu'on pourrait appeler la permanence d'un modèle colonial. Voilà. Donc, c'est une matrice, la colonie. Et évidemment, on s'est rendu compte que ce contre quoi les Africains-Américains luttent, était transposable dans un grand nombre de pays. Et c'est pas pour rien qu'ils ont compris cela et ont travaillé à une internationale, à une connexion, à pouvoir se connecter autour de ces problématiques. Ce sont les mêmes. Chez Paul Robeson, il y a une lutte permanente et constante quand on est africain-américain ou on va dire noir, de devoir répondre d'un espace qui serait le ghetto. Et ça, c'est une vraie leçon, parce que c'est une sortie du ghetto qu'il propose.
La voix de Zahia Rahmani dans La Marche du Monde, commissaire de l'exposition Sismographie des luttes, déjà présentée à Dakar et à Rabat. L'expo est actuellement à Marseille et elle démarre à New York. On l'attend à nouveau à Paris. Paul Robeson est connecté aux luttes des peuples dominés, Sarah Friou-Salgas, notamment lorsqu'il vit à Londres, vous l'avez souligné, puisqu'il rencontre de nombreux militants panafricains. Alors justement, qui rencontre-t-il dans ces années 30 à Londres ?
En effet, c'est à Londres qu'il rencontre un certain nombre de militants panafricains et de futurs militants indépendantistes, hein, anglophones essentiellement, comme Jomo Kenyatta, Azikiwe ou encore Kwame Nkrumah, dans les intellectuels Panmore ou Seller James, etc. Donc plutôt des intellectuels anglophones. Mais une des personnes qui va vraiment faire le trait d'union entre ces militants, ces intellectuels, et Paul Robeson sera sa femme, Eslanda Robeson. Vraiment, je pense qu'il y a eu un rôle assez majeur dans son engagement. Et en fait, j'ai un peu envie de comparer ce couple à Beauvoir, Sartre. Enfin, c'était vraiment un couple intellectuel, militant, temps assez libre l'un et l'autre, mais qui ont toujours lutté ensemble. Et sur ses liens avec l'Afrique, c'est vraiment elle qui va suivre des études d'anthropologie avec Malinowski à Londres. C'est là où elle rencontre Jomo Kenyatta. Donc c'est comme ça qu'elle va faire le lien avec toute cette ébullition panafricaine et anticolonialiste londonienne des années 30 et qui va vraiment changer un petit peu les perspectives de Robson dans son rapport à l'Afrique. Il va apprendre à ce moment-là, lui, des langues et un certain nombre de langues africaines. Aussi s'intéresser à cette histoire-là qui fait partie de son histoire et au contact vraiment de militants africains. Et c'est Londres qui a été une vraie plaque tournante artistiquement et politiquement, en tout cas pour les intellectuels anglophones.
Et de retour aux États-Unis, Eslanda et Paul Robson s'engagent pour la décolonisation. De quelle façon vont-ils militer tous les deux ?
Alors en fait, leur engagement va un petit peu commencer à Londres et va continuer aux États-Unis, et notamment autour d'une structure qui s'appelle le Council on African Affairs, qui est créée en 1937 par des Africains-Américains, mais eux vont le soutenir depuis Londres. Et au départ, cette structure devait surtout sensibiliser comme ça, de manière un petit peu classique, les Africains-Américains à l'Afrique. C'était vraiment voilà, une diffusion d'informations sur l'Afrique. Et ils vont s'engager un petit peu dans cette association. Et petit à petit, ils vont s'engager de plus en plus. Et Robson va prendre la tête de cette structure en 1942. Et Du Bois sera d'ailleurs le secrétaire adjoint, disons, de cette structure.
Alors, et Webb Du Bois, qui est vraiment le père du militantisme panafricain aux États-Unis.
Voilà, excusez-moi. Et Robson et Du Bois étaient très, très proches. Il faut le rappeler aussi. C'est ça qui est tout à fait intéressant pour rebondir sur les propos de Zaya Ramani. C'est vraiment aussi, il va avoir des compagnons de route très importants, très forts, et notamment Du Bois. Et donc, ils vont être dans cette structure et ils vont la radicaliser. Ça va devenir vraiment très vite le Council on African Affairs, une structure très engagée, très anticolonialiste, et qui aura, pour aussi revenir sur les travaux, vraiment les démarches de Zaya, d'un peu de ressortir de l'oubli un certain nombre de publications, va avoir une newsletter que je montre dans l'exposition, et on voit cet engagement panafricain des Africains-Américains et cet engagement très très lié aux indépendances africaines des années 50.
Avec un titre très clair et très fort, Freedom, Liberté.
Voilà, exactement.
Pour le journal. Alors Paul Robson est un non-aligné, c'est ce que vous montrez, Sarah Friou-Salgast, dans cette exposition au Quai Branly, à travers le documentaire La bataille de la vie, signé Louis Daquin en 1949, un document ciné-archive.
Et voici Paul Robson, le célèbre chanteur noir américain.
We Negro people, we people from the colonies.
Nous autres peuples noirs, nous autres peuples coloniaux qui aspirons à une vie humaine, savons que ce programme soi-disant hardi et neuf de M. Truman, que cette invasion de l'Afrique par M. Stettinius et ses trusts, qui disposent de milliards de dollars, peuvent seulement signifier une nouvelle forme d'esclavage.
Et comment ne pas lui demander une chanson? Nous lui avons demandé une chanson et il a chanté Joe Hill en l'honneur de ceux qui tombent dans la lutte pour la paix et la justice et dont le souvenir doit vivre en nous et nous inspirer.
About Joe Hill.
I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you and me. Says I, but Joe, you're 10 years dead. I never died, says he. I never died, says he. In Salt Lake City, Joe, says I, him standing by my bed. They framed you on a murder charge, says Joe, but I ain't dead. Says Joe, but I ain't dead.
Extrait du film de Louis Daquin, La bataille de la vie, nous sommes en 1949, et Paul Robson participe au premier congrès international des partisans de la paix, Salle Pleyel, à Paris. Et vous précisez, Sarah Friou-Salgast, que la presse a déformé les propos de Paul Robson. Que s'est-il passé ?
En effet, ça va être un petit peu un tournant dans l'image que Robson va avoir, qu'on va avoir de Robson aux États-Unis, car la presse américaine présente à ce congrès, qui était quand même un congrès plutôt organisé par des militants communistes, va un petit peu surinterpréter les interventions de Robson en expliquant notamment que Robson ait une position anti-américaine lorsqu'il appelle en fait les Américains à ne pas se battre contre les pays proches de l'Union soviétique au nom de la paix, un peu comme tous ces grands militants. Voilà, même si c'était les grands congrès de la paix d'après-guerre, plutôt soutenu par les communistes. Et on sait que voilà, la fin des années 40, c'est le début de la guerre froide. Et il va payer tout ça.
Enfin, ceci dit, Robson ne mâche pas ses mots. Et après sa prise de parole, il choisit de chanter Joe Hill en hommage à ce syndicaliste victime de la peine de mort. C'est une chanson qu'il a également interprétée en soutien aux mineurs écossais. Donc, je veux dire, politiquement, son message est quand même extrêmement clair.
Son message est extrêmement clair. En effet, il critique violemment la position de son pays. Mais voilà, oui, enfin, puis ça fait partie, c'est dans l'air du temps. Voilà, on commence à se positionner de manière de plus en plus radicale, ce qui est légitime.
Bien sur RFI, entre les oreilles, la mémoire militante de Joe Hill par John Baez en 1969 au festival de Woodstock aux États-Unis. C'est une protest song au répertoire de la gauche américaine, une gauche accusée de communisme. Et d'ailleurs, Esmelda et Paul Robson sont surveillés par le FBI depuis les années 40. Et là, Sarah Friou-Salga, son aura de star populaire, ne le protège plus finalement.
Non, en effet, son aura de star populaire, mais comme d'autres grandes stars hollywoodiennes qui vont être, qui étaient militantes, communistes, qui vont subir voilà, le maccartisme des années 50. Et en effet, après avoir été vraiment une espèce de fédérateur d'une Amérique cosmopolite, etc., en 1939, avec Ballad for Americans, dont on parlait tout à l'heure, très vite, il va y avoir en effet son intervention de 1949, son engagement de plus en plus radical. Et là, il va, comme d'autres militants, subir... Voilà,
la
chasse aux sorcières, exactement. Et comme Dubois, on va leur prendre leur passeport. Ils vont devenir l'un et l'autre prisonniers de leur propre pays. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va les empêcher. En effet, on parlait de tout à l'heure de leur engagement des non-alignés, notamment d'assister à Bandung en 1955, hein, où Robson d'ailleurs envoie un message qui sera lu à Bandung. Dubois ne pourra pas s'y rendre non plus. Voilà, en 1956, ils ne pourront pas se rendre ni l'un ni l'autre au premier congrès des artistes et écrivains noirs pour les mêmes raisons.
À Paris.
Et récupéreront Dubois, je ne sais plus, mais en tout cas Robson en 1958, son passeport. Donc ça va être 8 ans de prisonnier politique dans son propre pays. Mais ce qui ne l'empêchera pas de continuer à être engagé aux États-Unis, notamment à travers les revues dont on a parlé tout à l'heure, Freedom, qui sera une revue africaine-américaine, mais qui va être beaucoup plus radicale, qui va s'intéresser à la question des Africains-Américains, mais aussi aux questions coloniales, mais pas uniquement africaines, aussi asiatiques et sud-américaines.
C'est donc bien à cause de cette chasse aux sorcières initiée par le sénateur McCarthy que le couple Robson n'a pas pu sortir du territoire américain jusqu'en 1958, une date anniversaire.
Paul Robson Paul Robson a 60 ans. La société Moscovite célèbre cet événement par une soirée solennelle, avec un discours du grand écrivain Boris Polvoy. Paul Robson est un immense artiste, un farouche combattant de la paix, un ami de l'Union soviétique. Ces images ont été prises en 1949 à l'occasion d'une invitation du peuple soviétique.
De pays en pays, de mer en mer, le peuple travailleur, le peuple combattant prend les armes. Prêt à la douleur, prêt au tourment, prêt au combat final. Vous le savez, je suis fier, très fier, d'être un authentique ami du peuple soviétique.
Cher Paul Robson, de par les forêts, de par les montagnes et les océans, les soviétiques vous saluent du fond du cœur.
Moscou fête en grande pompe le 60e anniversaire de Paul Robson. C'est une archive cinéma, British Pathé, que vous pouvez découvrir au musée du Quai Branly, dans l'expo Paul Robson, la première grande star américaine de New York à Moscou. Sarah Friot-Selgas.
Oui, c'est j'ai les images de cette archive là que vous diffusez à la radio.
Qui racontez-nous justement ce qu'on voit.
Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit un grand amphithéâtre où il y a plein de spectateurs et un portrait géant de Paul Robson, et c'est quand même assez. C'est à la fois caricatural avec toute espèce d'icône de comme ça, militante, communiste, amie du peuple soviétique, mais une icône africaine-américaine comme ça avec des tas de gens. C'est émouvant et caricatural, et en même temps c'est des images d'époque. L'époque des icônes, des stars qui prenaient position pour un camp et d'autres pour l'autre. C'est un peu Et lui, c'est plutôt le camp de l'Union soviétique. Mais ce qui est intéressant, et ce que j'espère montrer un peu dans l'exposition, c'est que c'est à la fois un militant très caricatural et en même temps qui s'émancipe de cette place-là, qui accepte de se mettre à la disposition de l'engagement. Parce qu'il y a dans cette section justement de New York à Moscou, je montre un certain nombre de photos où il est au milieu de petits-enfants qui ont des têtes blondes, soviétiques, avec une petite mamie soviétique. Voilà, que des images un petit peu comme ça, très de propagande presque. Mais je pense qu'il assumait complètement de jouer ce rôle-là. C'était conscient, quoi. Il n'était pas manipulé.
Alors justement, Paul Robson, qui choisit son camp pendant la guerre froide, c'est celui de l'Union soviétique. D'ailleurs, en Union soviétique, il rencontre des étudiants africains, donc comme nombre de pays en voie de développement à l'époque. Est-ce que le choix de Robson, c'est un choix purement idéologique, communisme contre capitalisme, ou est-ce qu'au fond le communisme est une voie pour l'émancipation, est un moyen d'émancipation?
Je pense que ce qui est intéressant sur la question des liens entre le communisme et l'anticolonialisme, c'est une question qui commence dès les années 30, où très très tôt l'Union soviétique va être dans une stratégie de soutien aux différentes luttes anticoloniales, qu'elles soient africaines, asiatiques. Et ça, il y a plusieurs ouvrages là qui ont été publiés, qui sont publiés là-dessus, un peu pour aussi revoir cette période. Et c'est évidemment quelque chose qui continue jusqu'aux années 60. Et là, l'image d'archives qu'on voit dans l'exposition. On le voit, là c'est une autre image d'archive, donc c'est toujours Robson qui est à Moscou, à l'université Lumumba, en février 61, c'est-à-dire un mois après l'assassinat de Lumumba, et il chante devant des étudiants de cette université Lumumba, je le précise, peut-être que les auditeurs ne savent pas, c'est une université à Moscou où on accueillait des étudiants africains, mais aussi du monde entier, en fait, asiatique. Et là, il y a une archive où on le voit chanter avec un portrait de Lumumba à la main, une sorte d'ode à Lumumba un mois après sa mort. Donc c'est ça qui est assez étonnant dans ce personnage. Il se retrouve dans des lieux un peu improbables, comme artiste, grand chanteur africain-américain, l'université Lumumba, à Moscou en train de chanter quelque chose, de rendre hommage à ce fameux Lumumba.
On dirait aujourd'hui un lanceur d'alerte.
Peut-être, oui.
Merci Sarah Friot-Salgas et merci à toute l'équipe du musée du Quai Branly pour cette exposition Paul Robson, l'homme du tout monde. Merci également à la sonothèque de RFI, Alina, à Ciné Archive et British Pathé. Ainsi s'achève cet épisode de La Marche du Monde réalisé par Sophie Janin avec la complicité de Harry Belafonte, digne héritier de Paul Robson. N'hésitez pas à réagir sur notre page internet et Facebook où vous trouverez encore plus d'informations. Écrivez-nous, podcastez cette émission, c'est la vôtre.
Try to remember the kind of September when life was slow and oh so mellow. Try to remember the kind of September when grass was green and grain was yellow. Try to remember the kind of September when you were a young and callow fellow. Try to remember, and if you remember, then follow, follow. Try to remember when life was so tender that no one wept except the willow. Try to remember when life was so tender that dreams were kept beside your pillow. Try to remember when life was so tender that love was an ember about to billow. Try to remember, and if you remember, then follow, follow. Deep in December, it's nice to remember, without a hurt, the heart is hollow. Nice to remember the fire of September that made you mellow. Deep in December, our hearts should remember.